Chapitre 7. Un matin, Jacques aperçut l'oncle Antoine qui cheminait dans le jardin, vêtu d'une longue blouse d'un bleu foncé, luisante comme vernis, brodée d'arabesques de fil blanc, formant épaulettes de chaque côté du col. Un impérieux savonnage avait éclairci l'épiderme écru de ses joues, sur lesquelles des poils de brosse à dents se piquaient, couchés par un dernier coup de torchon, dans le sang de la bouche, les points d'en bas. Où que je vais, mon cher garçon, mais je vais me faire raser, car c'est aujourd'hui le dimanche. Ah, fit Jacques, qui perdait absolument la notion du temps depuis qu'il vivait à l'ours. Tiens, mais célèbre-t-on ici la messe? Et il désigna par-dessus le mur du verger la vieille église. Sans doute qu'on l'a dit pour les femmes de Longueville. Et vous, vous n'y allez pas? Moi, quoi que ça m'enfoncerait. La messe, c'est le métier du curé, pas vrai? Il brille pour tout le monde, cet homme, il n'a pas que ça à faire. Et Norine? Elle est allée sur la montée de la Renardière. Et après un silence, il ajouta. Encore une fois, vois donc, mon neveu, ce qu'il y a des guêpes, c'est bon signe, car ça prouve qu'il y aura cette année beaucoup de vin. Tout en causant, ils étaient sortis du jardin et se trouvaient en haut près de l'église en face du chemin du feu. « À tout à l'heure !» cria le père Antoine qui descendit la côte. Jacques le suivit des yeux, puis il s'assit sur le talus et contempla ce même paysage qu'il avait entrevu dans la brune le jour de son arrivée à l'Ourps. « Voyons !» se dit-il. Se rappelant le nom des coteaux dont il avait les oreilles quotidiennement rebattues grâce à Norine. « Ah, voici au loin, tout au loin, les futaies de Tachy, puis Gratteloup, ah, la butte des Froiscus. Par ici, où je suis, les versants de la Renardière et de la Graffigne, et en bas, au fond de ce cirque liseré de bois, le petit village blanc et roux de Jutigny, avec ses murs peints au lait chaud et ses toits de tuiles, puis, presque derrière moi, le pays noir et vert de Longueville, avec ses tourbières et ses arbres. Enfin, traversant ainsi qu'une bande de criets, le sol laboureux du cirque, le monotone et la plate route qui mène à Bray. Il releva la tête et sonda l'horizon. En haut, au-dessus de Tachy, le ciel bruinait en une imperceptible limaille d'un bleu très pâle, presque lilas, comme ces poudres que blutent les firmaments chauffés le matin et dont le ton dans l'après-midi se fonce. Les arbres qui clôturaient la vue s'étendaient en masses confuses, d'un gris souris atténué par la cendre mauve qui tremblait dans l'air. Et peu à peu, cette cendre se dispersa et les troncs apparurent en une haie sombre, mais les cimes demeurèrent encore émoussées et sans aucun vert. Plus bas s'étageaient les uns sous les autres des champs, pareils à des tapis, jaspés de feuilles mortes, tavelés de rouille et d'interminables routes montaient, filant jusqu'au pied des futaies, séparant telles que des bandes de linge ces carrés de flemme teinte. Puis au-dessus de l'horizon, derrière les touffes informes des bois, une grande nuée blanche s'élevait, croissant à mesure, puis s'écartant et volant de même que des bouffées de chemin de fer dans le ciel qui passait par d'infinies dégradations du violet tendre au roux et devenait dans sa fuite sur la vallée tout bleu. Et au loin, des visages s'entrevoyaient sur les collines, au bout des rubans de toile, sur la bordure des tapis, des amas de maisons dont les toits demeuraient invisibles, perdus dans la trépidation de l'air, mais dont les murs éclataient avec l'aveuglante branchise des badigeons crus. La brume s'éclairait encore. Les buttes blondirent et se dorèrent dans un coup de soleil qui frappa tout un hameau, mais épargna la moquette sourde des champs et repoussa la taciture de couleur de guéret sec. À son tour, le vent se leva, rompant le silence de la plaine, balayant les bleuâtres vapeurs qui voilaient les côtes. Alors, l'horizon creusa de profondes encoches dans le sommet des arbres, dont le vert se vit, les bourgades, les chemins, tout à l'heure vagues, s'affermirent et semblèrent ne plus voguer au ras de la terre, mais s'implanter réellement au sol. Les peupliers immobiles et muets, étriqués, pour la plupart avec leurs têtes chevelues, leurs places épilées et leurs bouquets serrés de feuilles, bouffèrent, s'élargirent, roulèrent dans le vent avec un bruit d'écluse. Et une fois de plus, le firmament changea. Le soleil disparut, rejetant les villages qui grelottèrent sur les buttes. Des nuages coururent, dessinèrent des continents dans ces mers du ciel dont le bleu apparaissait en des golfes déchirés de capes. Et des trous s'enfoncèrent dans ces illusions de l'espace, des trous infundibuliformes, roux, par lesquels filtra une lumière de lanterne sourde, une lumière de crépuscule qui blêmit le paysage, rampant en quelque sorte les tons chagrins et tièdes, les délayant encore, accusant au contraire les tons criards qui, livrés à eux-mêmes, s'avancèrent débringués au-dessus du val. L'atmosphère était étouffante. Des souffles accablants de poils arrivaient avec le vent, gonflaient la blouse vernie de l'oncle Antoine qu'on apercevait au loin, tout au loin, très petit, renflé d'une bosse par la blouse, laissant passer entre ses jambes des fumées de poussière qui lui enveloppaient par instants le dos. Jacques, qu'atterraient les cruautés bleues des ciels d'août et que ravissait la tristesse des novembres gris, demeurait indifférent à ce marchandage du temps qui, tour à tour, soucieux et gai, ne versait ni réelle mélancolie ni véritable joie. Il rentra et se promena dans le jardin du château. Il s'assit sur l'ancienne pelouse, mais cette position l'impatienta. Il s'étendit sur le ventre et, ne pensant à rien, il se complut à grappiller des fleurs. Il n'y en avait aucune parmi celles qu'il atteignait qu'un horticulteur eût tolérées dans un jardin, car c'était une séquelle de ces plantes qui poussent sur les routes, une florée grottante, une gueuserie de fleurs, dont quelques-unes, telles que la chicorée sauvage, étaient pourtant charmantes avec leurs étoiles d'un azur de bleuet pâle. D'aucunes avaient percé la croûte des mousses et vivaient seules. D'autres s'étaient réunis en de petits groupes et occupaient de minuscules districts dans lesquels leurs tribus campaient à l'aise. Au nombre de celles-là, Jacques reconnut les familles d'œillettes qui balançaient leurs têtes surmontées, comme celles des pavots, d'une couronne comtale aplatie, d'un gris verdoyant d'eau taché de rose. Puis, séparés par des landes à fourmis, des pieds de baume dont il s'habitait à pétrir les feuilles entre ses doigts, qu'il sentait, savourant les variations de l'odeur qui s'évapore d'abord avec son parfum initial, puis avec un relent accusé de pétrole et qui, en fin de compte, alors que l'essence s'éloigne, avec un léger fumet et des sels douces. Il se retourna, ne pouvant décidément pas tenir en place. Il se leva, fuma une cigarette, par les allées. Au milieu de ce fouillis de verdure, il découvrait chaque jour de nouveaux arbrisseaux et de nouvelles plantes. Cette fois, contre les anciens fossés au bout du jardin, près de la grille, il aperçut des haies de chardons magnifiques et des buissons de houx truités sur leurs feuilles d'un vert métallique de larmes jaunes pareilles à des gouttes de foie de soufre. Et la vue de ces arbustes l'arrêta, car, griffés et contournés tels que des arabesques de vieux fer, volutés de jambages et de crochets, ainsi que les lettres gothiques des anciennes chartes, il lui rappelait certaines gravures allemandes de la fin du XVe siècle, dont les allures héraldiques le faisaient rêver. Le grincement du treuil mis en branle au-dessus du puits le tira de ses réflexions. qu'il remarqua au travers du tavis des feuilles la tante Norine en sabots qui tournait furieusement la manivelle. « Quoi donc que tu dis, mon neveu? Quel puits est tari ? » cria-t-elle du plus loin qu'elle l'entrevit. « Oh, pas peur, va, il y a encore de l'eau assez pour enneiller les plus grands que toi. Tiens, regarde !» Et d'un bras de fer, elle attira l'énorme seau plein d'une eau froide et bleue dans laquelle remua la poulie réverbérée du puits. Et elle lui expliqua comment il devait s'y prendre. Il fallait descendre avec précaution le seau, mais arrivé au terme de la corde, il fallait le lâcher d'un petit coup sec pour qu'il plongeât et ne surgeât point. « Et zut !» s'exclama Jacques, ennuyé par cette leçon et un peu vexé de sa maladresse sur laquelle la vieille appuyait en goguenardant. Il remonta dans sa chambre, la table était mise. « Oh, ça y est, encore du veau !»« Mais que veux-tu que je fasse? Je ne puis pourtant pas tout jeter. » Et Louise lui révéla les procédés de la bouchère. On lui commandait une livre de viande et elle en envoyait trois, déclarant que c'était à prendre ou à laisser, attendu qu'elle aurait sans cela un débit trop restreint pour tuer et écouler ses bêtes. Et dire que faute d'une autre boucherie... Il importait d'accepter, sous peine de famine, ces conditions. De sorte que nous sommes obligés d'avaler pendant plusieurs jours la même viande, ou de nous en débarrasser, ce que nous faisons en somme. Dis donc, mais ça finit par coûter cher, ces gabegies-là. Et il s'emporta lorsqu'il apprit que la bourse était presque vide. Il commençait à échanger des mots aigres quand un bruit de voix retentit dans l'escalier. Alors ils se turent. Elle desservant la table, lui songeant aux nouvelles tentatives que son ami avait dû faire à Paris afin d'obtenir l'escompte de ses billets. Le père Antoine parut, rasé de frais, coiffé d'une casquette à triple dôme, Norine presque débarbouillée, les cheveux enveloppés dans une marmotte à grands carreaux noirs. « Ben, je t'emmène à Jutigny, mon neveu, » dit l'oncle. « C'est le jour qu'on va chez Parisot faire la partie et prendre un verre. »« Mais je ne joue pas. »« Que ça fait, tu nous regarderas. »« Tout de même, c'est pas du refus, » dit-il à Louise, qui lui offrait du cognac. « Et amusez-vous !» cria la tante Norine après qu'on eût trinqué. Les deux hommes se levèrent et partirent. « Oh, Parisot, c'est un garçon qu'a de l'aisance !» racontait en chemin l'oncle Antoine. « Puis, que son auberge vaut de l'argent !» Et il désigna une grande bâtisse à un étage, assise sur la route de Longueville à Bray, au commencement du village. Ils pénétrèrent par une porte au-dessus de laquelle se balançait une branche de pin dans un indescriptible brouhaha. On eût dit que tous ces paysans qui riaient, tassés les uns contre les autres, se disputaient et en allaient venir aux mains. On acclama le père Antoine et quelques-uns se reculèrent pour lui faire place ainsi qu'à Jacques. « Qu'est-ce qu'on vous sert ?» demanda Parisot à un long gaillard dont la tête glabre tenait de celle du Bedeau et du Jocris. « Bon, donne-nous du cassis et du vin, mon homme, et de l'eau fraîche, » répondit le père Antoine. Tandis que le vieux examinait les coudes sur la table le jeu des voisins, Jacques embrassa d'un coup d'œil la salle, une grande salle aux murs peints en verre d'eau, avec des soubassements et des filets chocolat. Ça et là, des affiches d'assurance et des prospectus d'engrais. Un exemplaire de la loi sur l'ivresse collé par des pains à cacheter aux quatre coins. Une règle encadrée du jeu de billard et des boules enfilées sur une tringle pour marquer les points. Au plafond, quelques lampes à schiste. Tout autour de la pièce, des bancs d'écoliers, des tables revêtues d'une toile cirée, écorchée, montrant ses fils. Au centre, un billard massif avec des cuivres du temps du Premier Empire, et dans un angle, une haie de queue blanche à dessin marron. Un nuage de fumée emplissait la pièce. Presque tous les paysans se sortaient de la bouche, les jeunes des cigarettes et les vieux des tronçons culottés de pipes. Jacques les contempla. Au fond, tous se ressemblaient. Les vieux avaient des tignasses sèches, des oreilles énormes et velues, au lobe percé, mais sans boucle, des pattes de lapin près des tempes, des yeux pas clairs, des nez ronds et gros, aux fosses embroussaillées par des poils, une gouttière rasée dessous, des lèvres lit de vin, de durs mentons, sur lesquels ils se passaient constamment les doigts. En somme, ils ressemblaient tous aux cabots qui les imitent, avec leur rire édenté, leur teint au brou de noix et leurs annonnements si peu comiques. Seules les mains turgides, noires aux articulations, les ongles écrasés, fendus éternellement sales, les calus et les croûtes des paumes, le cuir régredillé, couleur de pelure d'oignon, des revers, indiquait qu'il travaillait réellement la terre. Et les jeunes, ils avaient l'air de souteneurs et de soldats. Ils ne portaient pas des favoris en pattes de lapin, mais de courtes moustaches et des crânes tondus ras. Vus de tête seulement, ils appartenaient à l'armée. Du chef aux pieds, sous leur haute casquette, dans leur grande blouse bleue tombant jusqu'aux chevilles, ouverte sur le devant, laissant passer un gilet mastic garni de boutons pointillés, découpé dans une sorte de fromage d'Italie ferme, dans leurs pantalons gris et leurs pantoufles à talons brodés, ils simulaient à s'y méprendre la pêche des barrières parisiennes, dont ils avaient le dandinement des hanches et le renversement des poings. Ils turbulaient autour du brouillard, du billard, croisant leurs queues comme des armes, se sautaient sur les épaules pour se faire plier, se tapaient sur les cuisses, se frottaient les allumettes sur les fesses, et ils s'engueulaient ainsi que les gens qui vont s'égorger, braillant, la bouche en avant, les uns sur les autres, prêts à se manger le nez et à s'éborgner avec leurs gestes qui s'achevaient dans des bourrades amicales et de gros rires. Les vieux hurlaient pour leur part aussi fort, frappant du poing sur la table, chaque fois qu'ils jetaient une carte, ou bien s'arrêtant, tiraient une à moitié de l'éventail de leur jeu, puis la renfonçaient en se contractant par un rictus des mâchoires la peau des fanons. « C'est-y pour demain !» criaient les autres. Et une fois le coup terminé, les récriminations commençaient. « Mais t'aurais dû jouer cœur, mais non, mais si, là !» « Oh, bouc d'empoté, quoi donc que t'aurais fait à ma place, puisque je te dis que le piquet était maître ?»« De l'eau, une absinthe pour moi, un piquant parisot !» Et l'aubergiste, traînant les pieds, apportait la consommation dans un verre, tandis que son fils, un long cadet, la gingole, qui dormait tout debout, errait dans la salle en promenant une carafe. « Eh, par ici, andouille !» mais oui, comme ça, le monde est plus content. Ben, on le croirait point, je te dis que c'est un menteux. En vérité, bien sûr, là, si peu d'âge. Non, j'y vais les dimanches, mais pas les jours, ça. Oh là là, là ben, c'est temps. Jacques perdait la tête dans ses interjonctions, dans ses bribes de causeries qui lui parvenaient, coupées par le frifri d'une lèche-frite criant dans la pièce voisine, par le roulement du billard dont les queues brandies en arrière menaçaient de l'aveugler. Il regarda l'oncle Antoine. Il sirotait placidement son mélange de cassis et de vin et marquait avec un bout de craie sur la table les points du jeu. Jacques commençait à s'ennuyer démesurément dans ce vacarme. Une odeur de vieux gilet de flanelle, de copeaux de crasse, de bran, Une senteur des tables et des bouffées de lit l'enveloppait, en même temps que des milliers de mouches bourdonnaient autour de lui, s'abattaient en masse sur le sucre, pompaient les taches de la table, se reposaient sur ses joues, se lissaient les ailes sur le bout de son nez. Il les chassait, mais elles revenaient en hâte, plus sifflantes et plus têtues. « Je voudrais bien filer, » pensait-il, « mais l'oncle Antoine commençait une partie de piquet. » Il changea de place, et Jacques eut près de lui un vieux paysan qui portait un collier de barbe comme certains grands singes. Et il dut se reculer, car le nez de cet homme, qui avait la mine d'un professeur au jus de réglisse, et goûtait ainsi qu'un filtre du café qui coulait sur la table, sur ses voisins quand il remet, n'importe où. « Ça y est !» criait l'oncle Antoine en distribuant les cartes. Et il se brouillait le pouce chaque fois et tous faisaient de même lorsqu'il jouait. Jacques finissait par somnoler quand il entendit des fragments de conversation dont il s'efforça de pénétrer le sens. Mais l'un des deux paysans qui causait parlait si vite et jargonnait si durement qu'il était impossible de le suivre. Il était question d'une Parisienne, et Jacques se demanda tout d'abord s'il ne s'agissait pas de Louise. Mais non, on rappelait une scène qui s'était passée le dimanche d'avant dans l'auberge même chez Parisot. Les deux paysans riaient aux larmes, et l'oncle Antoine, un moment distrait de son jeu par ses rires, et mis sur la piste de l'histoire par un mot qu'il entendit, s'esclaffa à son tour. « Oh, ce que je m'embête, ce que j'aurais mieux fait de rester à l'Ourps !» se disait Jacques. Il se leva, se mit à genoux sur le banc et regarda par la fenêtre. Toutes les femmes du pays étaient en quelque sorte réunies sur la route, et pas une n'avait de sein. Et ce qu'elles étaient pour la plupart affreuses, taillées à coups de serpe, mal équarries, blondasses, fanées à 20 ans, fagotées telles que des souillons avec leurs chemises à coulisses, leurs jupes grises et leurs bas de prison enfilés dans des bamboches. Crédieu, quelle laideron, se dit Jacques. Les petites filles même étaient en avance sur leur âge, avaient des traits accusés et l'air vieux. Se tenant à 6 par les mains, elles formaient une ronde et chantaient avec des voix aigrelettes. Je m'en vais chez ma tante qui a des poules à vendre, des noires et des blanches, à 4 sous, mademoiselle, retournez-vous. Et sur ce mot, elle se retournait et dos à dos se repoussait le derrière en jetant des cris. Jacques finit par s'intéresser à ces petites singesses qui avaient au moins pour elle une vague santé de lèvres et des yeux frais. Puis d'autres accoururent, dont quelques-unes toutes jeunes, presque gentilles, dans leurs tabliers à raies. Et la ronde s'allongea et reprit, tandis qu'isolée virant sur elle-même, au centre, une plus grande entamait une complainte sur le massacre des innocents et sur la Vierge. « Marie, Marie, il faut vous en aller, car le roi Hérode, il vient pour tuer tous les enfants qui sont au berceau, sans oublier ceux de notre hameau. » Et la ronde s'accéléra, vola, enlevant par les bras les plus petites qui ne touchaient pas à terre et dont les chapeaux, tombés sur le dos, dansaient, retenus par un élastique autour du col. Dans le nuage de poussière qu'elle soulevait, Jacques n'apercevait plus la fillette dont la ronde répétait sur tous les tons le chant plaintif et traîné. Marie monta dans son cabinet, de blanc et de bleu, elle s'est habillée, puis par-dessus ses plus beaux effets, emporta son fils dans... Tout s'interrompit, et la ronde et le chant. Des calottes accompagnées de piaillements aigus retentirent. Une paysanne giflait éperdument l'une des petites qui avait perdu son soulier et qui continuait à sauter sur son bât. « Dis donc, mon neveu, » fit l'oncle Antoine en tirant Jacques par sa manche, « il est temps de s'en aller vers l'ours. »« Oh, je suis prêt, » répondit le jeune homme, enchanté de quitter l'auberge, et ils partirent. En chemin, il demanda au vieux de lui narrer l'histoire de cette Parisienne qui avait tant fait rire les paysans qui la racontaient. « Bon, c'est rien, » dit le père Antoine. C'est une dame qui a sa petite en nourrice dans le pays. Oh, c'est pas une dame riche. Elle est venue avec son autre enfant, et comme chez la mère Catherine, où qu'est la petite tiole, il n'y a pas de place pour loger, elle a loué une chambre chez Parisot. Mais dimanche que c'était la fête, Parisot le soir, quand elle est rentrée à 9 h pour coucher, il a dit qu'il ne pouvait pas la recevoir parce que sa chambre... C'était la chambre d'amour, celle où les garçons et les filles montent. Alors cette dame, elle a voulu rester, parce qu'il faisait nuit noire et qu'il pleuvait et qu'elle ne savait pas où coucher. Et il a dit comme ça, « Oh ben, il n'y a pas d'autre chambre, mais dans celle-là, il y a 2 lits. Couchez-vous avec votre petite, les garçons, ils ne vous feront rien. Ils iront sur l'autre lit avec les filles. » Et elle a fait une tête... que tous ceux qui étaient là s'en tordent encore, si bien qu'elle a fini par aller chez la mère Catherine, qui était avec sa malade et que la dame elle a passé la nuit sur une chaise. « Mais je ne trouve pas drôle, dit Jacques, de mettre une femme et un enfant à la porte quand il pleut et que la nuit est venue. Ben, fallait pourtant bien qu'il profite de sa chambre, Parisot, puisque les autres étaient occupés par des clients venus pour la fête. » Il ne pouvait pas en perdre pour la Parisienne la vente de son vin, c'est tant pis pour elle qu'elle était là. Puis elle aurait bien pu coucher dans le lit, les garçons ils se bousculaient pas avec les pouliches, mais ils font rien de mal, car on est trop. On se tritouille, on s'amuse, quoi, et on boit des verres. Puis qu'on en sort, les dames, ce que ça leur dit, ils s'en vont vers les champs. « Mais alors, reprit Jacques, le village doit être plein de filles enceintes. »« Sans doute, oui, sans doute, mais se marie. Aussi les malins, ils tâchent de faire un enfant une fille qui a vraiment du bien, » poursuivit-il, après un silence et en clignant des yeux. « Et c'est ainsi dans tous les environs ?»« Bien sûr, quand on voudrait que ce soit. » C'est juste, répliqua Jacques, un peu interloqué par cette histoire, qui résumait la haine parisienne, les instincts pécuniaires et les mœurs charnelles de cette campagne. En rentrant le soir, il narra ses faits à Louise. Il s'attendait à la voir s'exclamer contre la rapacité cruelle et l'impudente goguenardise de l'aubergiste. Elle plaignit la femme, s'apitoya sur l'enfant, mais elle haussa les épaules. Un autre aurait agi de même que Parisot, dit-elle. Ici l'argent est tout, et puis il faut bien dire aussi que le soir de la fête, c'est le moment de l'année où l'auberge réalise ses plus forts bénéfices, et dame. Ah, fit Jacques, qui regarda, surpris, sa femme. Chapitre 8. La feuillette tant attendue arriva un soir. Jacques apprit cette nouvelle le lendemain par la tante Norine, qui d'un air contraint, presque sournois, l'avertit que l'oncle Antoine achevait de mettre le vin en bouteille. « Matin, il n'a pas perdu de temps !» s'écria Jacques. « Quoi donc qu'il aurait fait, mon cher garçon ? C'est-il donc pas pour que vous qui n'ayez point de lit, vous ayez plutôt votre part? On la laissera dans le tonneau quand toi l'apportera sans plus qu'y tarder. » Jacques et Louise voulurent goûter le vin. Ils se rendirent chez l'oncle, qu'ils trouvèrent très affairé, bredouillant tout seul, vantant l'excellence de son cocherie, racontant que la pièce venait de Sens, affirmant que c'était du ben bon boire. Durant ces sauts capricants de paroles et la gêne des vieux, Jacques eut l'immédiate perception qu'on le filoutait. Voyons, fit-il en tournant la cannelle, et lui et sa femme dégustèrent ce vin. C'était d'une zélée piquette qui s'empressait à rappeler tout d'abord le goût du raisin, puis qui voulait ça, quand on l'avait bu, un fumet de futaille rincé sous une pompe. Il jeta un coup d'œil sur les litres déjà tirés, pensant que cela était moins additionné d'eau. Voilà, s'écria la tante Norline, 62 litres qui font la moitié que vous nous payons, 20 qu'on vous a prêtés en attendant que Benoni amène sa feuillette. Ils sont là que je compte, c'est à vous qu'elle reste. C'était égal, mais c'est une vraie lavasse que ce vin-là, dit Louise. Votre ami Benoni est un voleur. Oh, faut-il? S'exclamèrent les deux vieux. Et ils s'efforcèrent de persuader leur nièce que la légèreté de ce vin témoignait de l'honnêteté de Benoni, qui aurait pu, s'il était un malin, le sophistiquer pour le grossir. Bon, alors c'est bon, dit Jacques, mais où va-t-on mettre la barrique? Tu vas voir, mon homme, fit le vieux qui la plaça sur une brouette, la roula jusqu'au château et la déchargea sur l'une des marches de l'escalier, soutenant la partie qui dépassait par un amas de pierres posées sur les gradins de dessous. Mon opinion, la voici. Ton oncle est une vieille ficelle, dit Jacques à sa femme lorsqu'ils furent seuls. Et aussitôt elle s'exaspéra, reprochant à ses parents cette hospitalité qui consistait à prêter une chambre qui ne leur appartenait même pas, et elle débita, pour la première fois, ses griefs, révélant que Nodine offrait des pommes de terre et des plumes pâtes à cochon, mais jamais une pêche, parce que ce fruit là se vendait à Provins tous les samedis. Non, on n'invite pas les gens lorsqu'on veut les laisser les nourrir à leurs frais. Et ils sont riches, très riches, je le sais, conclut-elle, énumérant les terres qu'ils possédaient à 5 lieues de la ronde. Jacques demeura surpris par la soudaine âpreté de ses reproches. Oh, ne nous emballons pas, fit-il, ça n'en vaut pas la peine. Une seule chose m'ennuie, c'est la maladresse de ces grigous. S'ils avaient volé un certain nombre de litres, le malheur ne serait pas grand. Mais ils ont gâté ceux qui le laissent avec de l'eau pour cacher leur fraude. Oh, mais Norine ne l'emportera pas en paradis, conclut sa femme. Oui, mais, reprit Jacques en hésitant, ils ont sans doute payé leur bénonie. Pouvons-nous les rembourser tout de suite? Oh, maintenant, non. Ah, évidemment, puisque tu n'as pas d'argent. J'attends la lettre de Morand, qui s'occupe de nos affaires. Oh, Morand! Comment? Ben voilà un ami, le seul qui nous soit resté fidèle dans la débâcle, et tu as l'air d'en faire fi. Moi, mais où as-tu vu que j'avais l'air d'en faire fi? Oh, ton méprisant de ta voix, parbleu! Louise haussa les épaules. Ben tiens, je vais faire un tour. Et une fois dehors, il songea au changement qui s'opérait en sa femme, chercha à démêler ce qui se passait en elle. Il y a trois phases, se disait-il en réfléchissant. Après le mariage, bonne fille, aimante et dévouée, économe mais pas liardeuse, puis importante, il est vrai. Puis quand les douleurs nerveuses sont venues imprévoyantes, gaspilleuses et presque humbles, et maintenant ici intéressée et aigre. Il repensait à cette façon dont elle avait accueilli l'histoire de la Parisienne chassée de l'auberge, et à cette rage qu'elle avait soudain montrée alors qu'elle s'était aperçue des manigances de Norine et de l'oncle. Autrefois, elle en aurait ri. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes pauvres et que la raison de défendre notre bien. Mais cette réflexion ne le convainquit point. Il sentait un je ne sais quoi de nouveau s'insinuer entre eux, un essai de défiance et de franchise, rancune. Elle est malade, s'écria-t-il. Et cette autre réflexion ne le rassura point. Non, il y avait quelque chose de particulier, une nouvelle période d'âme. D'une part, une impatience qu'il ne lui connaissait pas, et de l'autre, une tentative de volonté, enveloppée dans de vagues reproches, sorte de réaction contre son rôle jusqu'alors réduit dans le ménage, une réaction qui impliquait forcément du dédain pour l'homme et une certaine confiance vaniteuse en soi. On n'est pas seulement lâché par les indifférents et les camarades quand on tombe dans la misère, se dit-il amèrement. On est même abandonné par ses plus proches. Mais il sourit, se rendant compte de la banalité de cette observation. Que faire, se dit-il. Tergiverser avec ma femme et ménager les vieux, car autrement la vie ne serait pas tenable. Et il eut en effet besoin de poser les tampons pour amortir de temps en temps les chocs. Un froid survint entre sa femme et Norine, entre l'oncle Antoine et lui. Et cette gêne, cette réserve, cette continuelle réticence, ce furent les yeux qui la portèrent et qui contraignirent Jacques à se rapprocher d'eux pour ne pas rompre. Ce fut, sans le vouloir, sans même s'en douter, que les paysans s'écartèrent de leur nièce. D'abord, ils avaient des torts envers elle et demeuraient sur la défensive, comprenant bien que les Parisiens n'avaient pas été absolument dupés par le vol du vin. Puis une inquiétude, presque une répulsion, les éloignait de Louise, depuis qu'ils l'avaient vue malade et frappant du pied. Ils n'étaient pas loin de la croire possédée ou folle, craignaient peut-être que son mal ne fût contagieux et ne les surprit. Il pensait aussi que l'argent de la feuillette aurait dû leur être aussitôt versé, et ils étaient en somme déçus des bonbons et des largesses sur lesquelles ils avaient compté en les invitant. Enfin, l'époque de la moisson était venue, et il n'y avait plus pour eux ni famille, ni amis, ni camarades, rien. Ils étaient exclusivement préoccupés par des questions pécuniaires, hantés par des inquiétudes d'atmosphère et de grange. Ils ne prêtèrent même plus attention aux Parisiens, qu'ils dédaignaient comme des propres Ariens, et ils ne vinrent plus leur rendre visite. Ces circonstances aidèrent à détourner la brouille. Las de vivre seul, Jacques et Louise s'avancèrent vers Norine et l'oncle, les fréquentèrent, et le besoin que les vieux éprouvaient de se plaindre de leur sort, de vanter leurs travaux, décida leur accueil dont la gracieuseté s'amplifia, car les saletés qu'on inflige aux gens déterminent d'abord chez ceux qui les commettent un petit recul, puis un mouvement en sens inverse, un désir de palliatif, un abandon de patte douce, sans doute destiné à cacher de futures trappes. Jacques fut heureux que les choses n'eussent pas tourné plus mal, car sa période d'engourdissement, sa torpeur de grand air avait pris fin. L'ennui l'accablait. Forcément, il songeait, en les regrettant, à ses travaux, à ses livres, à sa vie de Paris, à ses alentours apéritifs dont le charme s'exagérait depuis qu'il ne les subissait plus. Puis la grande chaleur éclata. Le temps incertain depuis quelques jours s'affermit. Écalé de ses nuages, le ciel arda nu, d'un bleu cru, féroce, inonda la campagne de flammes, désola la plaine. Le sol se dessécha, jaunit comme une terre à poil. Les buttes altérées se fendirent. Sous des trognons poussiéreux d'herbe, les routes rissolées pelèrent. Ainsi que la plupart des gens nerveux, Jacques souffrait d'invincibles tortures par ses chants, par ces temps qui vous fondent de la tête, vous trempent les mains, installent des bains de siège dans votre culotte. L'horreur des chemises remontant dans le dos, des cols mouillés, des flanelles moites, des pantalons collants aux genoux, des pieds gonflants dans la bottine, l'épuisement des sueurs coulant de la peau comme d'une gargoulette, perlant sous les cheveux, poissant les tempes, l'accablèrent. Et tout aussitôt l'appétit cessa. La pâture des interminables viandes mal masquées par d'insipides sauces lui fit lever le cœur. Il fouilla le potager et chercha des épices. Mais il n'y en avait point, ni cerfeuil, ni thym, ni pimprenelle, ni laurier, pas même des gousses d'ail, dont la crapuleuse odeur le dégoûtait pourtant. Rien, sinon quelques échalotes, mais leur goût brûlant et minéral les rebuta. Il ne mangea plus, et les défaillances d'estomac se montrèrent. Il traîna par les chambres, cherchant un peu de fraîcheur, mais dans l'obscurité où il se calfeutra, sa tristesse devint insupportable. Il se promenait, allait dans les endroits les moins clos, mais alors la chaleur entrait, et des bouches de calorifères lui soufflaient des trombes empuanties par la moisissure des parquets, par le renfermé des pièces. Il attendait que cet abominable soleil fût couché pour sortir, et l'atmosphère demeurait encore matelassée de vapeurs lourdes. Quant à Louise, elle se confina dans sa chambre, somnolent, à nonchalie sur une chaise, perdant son peu de force dans le milieu déprimant des canicules. Elle descendit à peine le soir, malgré les supplications de Jacques, qui l'entraînait pour la faire marcher un peu et se distraire jusque chez Norine. Mais la distraction était, il est vrai, médiocre. Elle et le père d'Antoine se plaignaient sans trêve des manœuvres qu'ils avaient louées, expliquant qu'ils avaient engagé pour la moisson les sapeurs belges qui parcouraient le nord et l'est de la France à cette époque, criant que c'était une ruine, que ces gens qu'il fallait payer et nourrir. « C'est du fléau, » disait Norine, « c'est des feignants, faudrait qu'on leur y porte tout. On est bien malheureux tout de même, il n'y a que les gens qui n'ont pas de récolte qui ne savent pas. » « Mais, » dit Jacques, « vous ne pouvez donc pas couper vos blés vous-même ?» oh là, mais mon cher garçon, la moisson elle serait terminée tant qu'à vendange, ça durerait prochainement 3 mois. » Et le vieux finissait par avouer que les Belges, avec la petite faux de leur sape et leur crochet, allaient plus vite en besogne et travaillaient mieux que tous les hommes du pays réunis ensemble. Nous savons, pas nous, nous sommes des piqueurs. Nous travaillons avec la grande faux qui est là dans le coin, mais ça fait de la lente ouvrage, et pour le blé qu'on a versé, on s'en sert pas, et puis qu'on en perd. Là, de solitude, une après-midi, Jacques quitta le château et se promena sur les côtes de la Renardière à la recherche du père Antoine. Partout, en haut des collines, en bas du val, des gens fauchaient, et le son portant loin, il entendait distinctement le bruit de soie suivi du tintement mélancolique de la sape coupant le blé. La vie du paysage changeait selon les côtes. Près de Tachy, la moisson était terminée, les moyettes posées en tas, pareilles à des ruches d'abeilles sur un sol pâle, hérissé de courts chalumeaux, par les pieds épargnés des tiges. Des voitures circulaient, qu'on chargeait de gerbes, et des meules s'élevaient, semblables à d'énormes pâtés enveloppés de paille. Du côté de la Renardière, l'on commençait à faucher seulement, et l'on apercevait des grands chapeaux, aucune tête, à peine un bout d'échine, et partout des bouquets, des fesses remuant sur des jambes écartées par un va-et-vient balancé et lent. Jacques reconnut enfin la tante Norine et l'oncle s'agitant auprès des sapeurs qu'ils avaient loués. Ils s'arrêtèrent en le voyant. Jacques demeura ébloui par le soleil, suant des averses, ébahi de voir ces Belges parfaitement secs, coupant le blé d'une main, le couchant de l'autre sur leurs crochets. C'étaient de hauts gaillards à barbe jaune, à teint bisse, à yeux sciés de blond, de faux albinos couverts d'une patine par la flamme du temps. Ils portaient une grossière chemise à raies aussi épaisse et rude qu'un cilice, et attachée à la ceinture de cuir du pantalon et pendant sur le bas-ventre un cornet de fer blanc plein d'eau et de paille pour mouiller et empêcher de balloter la pierre à aiguiser la sape. Ils ne soufflaient mot, et comme ils fauchaient du blé couché par les pluies, ils peinaient, se crachaient dans les mains et leur sape criait sur le blé qui tombait avec un long déchirement d'étoffe. « Eh là, bonne gens, c'en est un d'ouvrage que le blé versé !» soupirait l'oncle Antoine. Et il ajouta cette remarque, qui ne plut guère à Jacques. « Vrai que tu sues, mon neveu, à ne rien faire !» Quelle fournaise, pensa le jeune homme, qui s'assit en tailleur et se tassa, cherchant à s'abriter le corps dans le cercle d'ombre projeté par les ailes de son large chapeau de paille. « Et quelle blague que l'or des blés !» se dit-il, regardant au loin ses bottes couleur d'orange sale réunies en tas. Il avait beau s'éperonner, il ne pouvait parvenir à trouver que ce tableau de la moisson, si constamment célébré par les peintres et par les poètes, fut vraiment grand. C'était, sous un ciel d'un inimitable bleu, des gens dépoitraillés, velus, puant le suin, et qui sciaient en mesure des taillis de rouille. Combien ce tableau semblait mesquin, en face d'une scène d'usine ou d'un ventre de paquebot éclairé par des feux de forge. Qu'était, en somme, auprès de l'horrible magnificence des machines, cette seule beauté que le monde moderne ait pu créer, le travail anodin des champs? Qu'était la récolte claire, la ponte facile d'un bienveillant sol, l'accouchement indolore d'une terre fécondée par la semence échappée des mains d'une brute, en comparaison de cet enfantement de la fonte copulée par l'homme, de ces embryons d'acier sortis de la matrice des fours, et se formant et poussant et grandissant et pleurant en de rauques plaintes, et volant sur des rails, en soulevant des monts, en pilant des rocs. Le pain nourricier des machines, la dure anthracite, la sombre houille, toute la noire moisson fauchée dans les entrailles même du sol en pleine nuit, était autrement douloureuse, autrement grande. Et il renvoya un peu du mépris qu'il lui portait à ces paysans pleurards, dont la clémente vie eût été un incomparable éden pour les mineurs, pour les mécaniciens, pour tous les ouvriers des villes. Sans compter que l'hiver, les paysans bagnaudent et se chauffent alors que les artisans des cités gèlent et triment. « Oui, va, Jean !» se dit-il, s'adressant mentalement à l'oncle Antoine qui se lamentait, les deux mains sur le ventre en soupirant. « Sais-tu donc point malheureux du blé mou comme ça ?»« Ah, ça !» « Quoi donc que t'as, toi ? » fit-il après un silence, en regardant Jacques. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Ben, je suis dévoré, et partout à la fois !» s'écria le jeune homme. C'était soudain une invasion de gales, une démangeaison atroce, que les écorchures des ongles n'arrêtaient pas. Il se sentait le corps enveloppé d'une petite flamme, et peu à peu, à la passagère jouissance de la peau grattée jusqu'au sang, succédait une brûlure plus aiguë, un énervement à crier, une douleur chatouillante à rendre fou. « Ah, c'est les Aoutas !» fit en riant la tante Norine. « Oh, ils sont venus, tant qu'hier. Tiens, regarde !» Et elle pencha la tête, écarta deux bourrelets fermés de son cou, entre lesquels Jacques aperçut, enfoncé sous la peau, un grain de millet rouge. « Ben, c'est rien, c'est comme qui dirait de la puce, » reprit l'oncle. « Il y en aura prochainement jusqu'à la pluie. Jacques envia le cuir grenu de ses gens qui ne souffraient guère, alors que lui commençait à grincer des dents en se labourant les chairs. Oh, que le diable emporte la campagne, se dit-il. Il quitta les moissonneurs. Il fallait qu'il se déshabillât, qu'il pût se lacérer à son aise. Il se dirigea vers le château, mais il n'eut pas la force d'attendre d'aller plus loin. Derrière un bouquet d'arbres, il se dévêtit, pleurant presque tant il se faisait mal. Il s'arrachait des copeaux d'épiderme et ne pouvait se rassasier du douloureux plaisir de se pincer, de se racler, de se tenailler, de se raboter le corps. Et à mesure qu'il se ravinait une place, d'intolérables cuissons renaissaient à une autre, flambant partout à la fois, l'interrompant, le forçant à se griffer de tous les côtés, avec ses deux mains, les ramenant aux cloques déjà mûres dont le sang partait. Il se rajusta, tant bien que mal, monta ainsi qu'un homme pris de démence jusque dans sa chambre, trouva Louise presque nue en larmes. Et chez elle, l'énervement était si rapidement accru que les doigts tremblaient en même temps que les dents, entre la haie desquelles sourdaient des hoquets et des râles. Il songea tout à coup au remède des prurigos, au savon noir. Descendit 4 à 4, courut chez Norine, poussa la fenêtre mal jointe, entra, finit par découvrir du savon dans une terrine, et revenant, il en frotta malgré ses cris à tour de bras sa femme, puis s'enduisit furieusement de cet écrasis gras. Il eut la sensation qu'on lui enfonçait des milliers d'épingles par tout le corps, mais ses traits aigus, cette douleur franche, lui semblèrent délicieux en comparaison de ces ardeurs équivoques, de ces lancinements nomades, de ces grouilles exaspérants de gale. Et Louise se calmait aussi, mais le savon noir n'était pas assez véhément pour exterminer les aoûtas. Ils songèrent à les déloger avec des pointes d'aiguille, à les extirper des galeries qu'ils creusent, mais il y en avait tant que cette chasse sous-cutanée devenait impossible. Il faudrait du soufre, de la pommade d'Emmerich, des bains de Barège, se disait Jacques, désespéré. Et la tante Norine et l'oncle les contemplèrent le soir, retenant leur rire, surpris que les Parisiens eussent la peau si tendre. « Mais quoi que t'as, je te le demande !» criait la vieille à sa nièce. « Là où t'as, c'est comme la chaux boulée, ça fait des petites échauffures. » Ah, puis que c'est bon pour le sang que ça purge, reprenait l'oncle. Tiens, mon neveu, on les tue comme le verre en buvant du rhum. Et il vidait le carafon à leur santé. La nuit fut terrible. Une fois couchés, les démangeaisons un peu apaisées, le soir, reprirent. Harassé dans un état de surexcitation qui lui retournait les doigts, Jacques se leva, étouffant, tandis que Louise éraillait les draps et mordait les oreillers pour ne pas crier. Puis elle finit par s'abattre et par s'endormir. Et à son tour, Jacques, loin de la chaleur du lit, s'apaisa. Assis, nu, devant sa table, il se remâcha ses tristesses et s'incita, dès qu'il aurait reçu quelques sous, à regagner Paris au plus vite. Tout excepté les acarus spéciaux à ce pays, se dit-il. J'en ai assez. Et il compta les jours. Son ami avait enfin déniché une maison de banque qui consentait à escompter ses billets. Mais il y avait un tas de papiers à signer, une procuration à préparer, un engagement de laisser une petite somme comme entrée en affaires, une masse de formalités qui n'en finissait plus. Mettons une huitaine, il m'arrivera ce qu'il voudra à Paris, mais ce que je vais filer. Puis, il est bien manifeste que la campagne ne profite pas à Louise. Elle est constamment enfermée et ne veut pas sortir. Enfin, le côté sinistre de ce château agit évidemment sur elle. Et lui-même, depuis que l'ennui de la campagne s'affirmait, se sentait repris par ce malaise vague, par cette confuse transe qu'il avait si violemment ployée dès son arrivée à l'Ourps. Ce fait existait. Une fois reposé des fatigues du voyage et accoutumé à une nouvelle vie, l'instinctive répulsion qu'il avait éprouvée pour le château s'était tue. Les bruits nocturnes qui emplissaient cette ruine, ces batailles d'oiseaux qu'on entendait distinctement aux étages supérieurs dans la nuit des pièces, ces grondements du vent qui balayaient les couloirs, jouaient de l'harmonica par les fentes des carreaux et maniaient le sifflet d'alarme sous les portes. Il ne les percevait plus. Il dormait, réveillé seulement de temps à autre, prêtant l'oreille aux battues braconnières du bois, aux cris des hiboux qui ululaient en face. Mais ce n'était qu'une sensation agacée, inquiète, sans crainte positive, sans terreur vraie. Il se rendormait, indifférent, somme, à ce péril dont la menace ne lui apparaissait plus. Et un autre fait se produisait. L'assoupissement que lui versait le grand air avait engourdi cette vie de songe qui s'était, depuis son arrivée à l'Ours, si singulièrement accrue. Il dormait maintenant sans aucun trouble. Par-ci, par-là, il se sentait errer encore sur la frontière du rêve. Mais de même qu'à Paris autrefois, il ne conservait en se réveillant aucun souvenir de ses vagabondages sur les territoires du délire, ou bien il ne se rappelait que dans les débris d'incursion dénués de sens. L'ennui commençait à rompre cette sérénité animale. La veille déjà, il avait flotté pendant son sommeil, au milieu d'événements incohérents et vides. Il se souvenait seulement d'avoir rêvé, mais sans pouvoir ajuster les linéaments d'un songe dispersé dès l'aube. Et maintenant, cette nuit, irrité par le feu de sa peau, énervé par les souffrances, il était repris par la peur, une peur mystérieuse, impulsive, une sorte de rêve éveillé, dont les images se recouvraient les unes les autres, se brouillaient tant elles allaient vite, une peur dont la parenté avec les affres d'un songe semblait certaine. Ces bruits oubliés du château, il les entendait actuellement avec une certitude absolue, intense. Le terre-à-terre de l'âme, l'inertie de l'esprit qui sont les causes les plus décisives de la bravoure, car le courage de l'homme mis en face d'un péril tient presque toujours à une grossièreté de sa machine nerveuse dont le lourd mécanisme ne vibre point, avait cessé pour lui. Graissé et remonté par l'ennui, l'outillage de son cerveau s'était remis en marche, et la nourricière du cauchemar et de la peur, l'imagination, l'emportait aussitôt, suggérant des exagérations, multipliant des aspects de danger, courant en tous sens par les voies nerveuses dont le délicat système oscillait à chaque secousse, et décharger son énergie. Et il demeura agité sur sa table par une tempête interne dans laquelle surnageaient des commencements de pensées qui s'inachevaient, des combres d'idées dont la structure démolie ressemblait à celle de certains rêves. Et comme réveillé par le mutisme de son mari, Louise, les yeux grands ouverts, se dressa sur son séant et fondit en larmes. Il essaya de lui prendre les mains ramenées sur son visage, et lorsqu'au travers des doigts qu'il écartait, il aperçut les yeux, il saisit une expression double, passant sous le voile des pleurs, une expression de détresse affreuse et de mépris. Il laissa retomber les doigts qui recouvrirent la figure telle qu'une visière grillée de casque, et il s'assit au pied du lit. Une lucidité parfaite l'éclairait soudain, balayait le vague de son inquiétude et de ses frayeurs, accaparait tout le domaine de son esprit par la force de l'idée nette. Il comprenait que depuis 3 ans qu'ils étaient mariés, Aucun des deux ne se connaissait. Lui, parce que, malgré ses recherches, il n'avait pas eu l'occasion de sonder sa femme dans un de ces moments où les tréfonds de l'âme surgissent, et elle, parce qu'elle n'avait jamais eu besoin, dans le placide milieu d'une ville, d'un défenseur. Jacques voyait assez clair en eux à cette heure pour apercevoir la réciprocité de leur mésestime. Il découvrait chez Louise une âpreté héréditaire de paysanne, oubliée à Paris, mais développée par le retour dans l'atmosphère du pays d'origine, hâtée par les appréhensions d'une pauvreté soudaine. Et elle trouvait subitement chez son mari une défaillance nerveuse, une de ces faiblesses d'âme fines dont le mécanisme en émoi est odieux aux femmes. Et, loin de ses peurs puériles et de ses songes creux relégués d'un coup, Jacques pensa mélancoliquement à cette solitude qui, semblable à un iodure, faisait sortir les boutons de leur maladie spirituelle secrète et les rendait visibles, inoubliables à jamais, l'un pour l'autre.